La philo-lophie, un voyage intérieur
et extérieur
d'Aristote à Zarathoustra.
F comme
Foucault, Faye,
Fauconnier, Fénelon,
Fermine,
Fermine,
Freud, Flaubert,
François Furet, Friedman,
Foulon,
Faust,
La Fontaine,
Faulkner,
Brigitte Fontaine,
Fellini,
Madame de Lafayette,
Anne Frank, Franz Fanon,
Cynthia Fleury. F comme
famille, je vous et bonjour messieurs dames, bonjour le soleil, bonjour.
C'est fou tout ce qu'on peut mettre dans une tête. À commencer par des souvenirs de famille par exemple. De quelle famille suis-je? À quelle famille est-ce que j'appartiens?
Appartenance, voilà un mot qui sonne d'un côté vers les choix que je fais et de l'autre vers des entraves qui me sont dès la naissance imposées. J'appartiens à, est-ce que je m'appartiens? Je leur appartiens. Tantôt, c'est affirmer un choix, un accord, une acceptation. Tantôt, c'est dénoncer une sorte d'emprise, un rejet, manifester une rébellion.
Dès son apparition, au moment où elle prend son élan, se constitue un espace à elle qui perdurera, ce qu'on a nommé philosophie questionne d'un côté la personne, du point de vue de sa conduite, de ses attitudes. Comment dois-je me comporter? Selon quels critères? Comment m'orienter? Quel doit être mon guide dans cette vie? Et de l'autre, à la suite des premières écoles, dont la célèbre Académie de Platon, la philosophie questionne l'ensemble de la cité elle-même, son organisation, son gouvernement, sa destinée, son activité. Pour tenter de déterminer quelle forme collective serait la plus à souhaiter.
Il y aurait donc des parties à prendre pour soi, des manières à adopter pour sa propre vie, dont on peut débattre, et d'autres qui concernent soit dans un ensemble, soit avec ou parmi les autres, ce qui nous conviendrait à nous tous. Ou bien juste à nous de ce parti, de cette croyance, de ces convictions, de ces idées, constats, mots d'ordre, programmes dont nous nous réclamons, auxquels je et nous appartenons. Fidélité, rivalité, mais sans l'amitié, quel dialogue, quelle discussion? Quelle délibération reste possible pour soi seul ou pour nous tous?
Famille, famille, famille. Généalogie, antécédents, héritage, lignée, tradition. Conduite à adopter tantôt pour soi seul, tantôt pour nous tous. Un seul pas m'est-il permis sans que je doive répondre de mes appartenances personnelles ou collectives, subies ou choisies, adoptées ou rejetées?
Connaissez-vous cette série télé Malcolm? Elle nous raconte les aventures d'une famille, peu ordinaire. On s'attend toujours à la pire catastrophe. Et puis, au cours de chaque épisode, comme par miracle, la situation est sauvée.
Je trouve cette série assez extraordinaire, à la fois délirante et très réelle. Inventive et touchant à des sentiments, des situations de famille, soit qu'on s'y reconnaisse, soit qu'on veuille s'en démarquer, ne laisse pas indifférent. Mélange d'ordre et de bordel, de fidélité et de trahison, de rationalité et de pure folie. Par bien des aspects, tout cela nous parle, par le fait que cette famille, cette vie de famille, dont le quotidien nous est raconté, et par moments commenté par la voix de Malcolm, un des enfants, un des quatre enfants qui s'adresse à nous, la vie de cette famille, dont le sort tourne quand même autour du personnage plutôt autoritaire de la mère, cependant pleine de mansuétude à l'égard de sa progéniture, mais souvent dépassée par les événements, et conservant néanmoins un certain contrôle sur la situation, cette vie qui nous est racontée nous émeut dans ses tentatives perpétuelles de tout sauver, quitte souvent même à rembarrer les lois, l'instit, le flic, le voisin, le marchand, le patron ou le médecin, et tout en essayant désespérément de se conformer, d'être dans les clous, de ne pas avoir l'air trop à côté de la plaque. Un jeu de funambule, d'acrobate où au final, au-delà de la colère, des reproches, du débordement, des emmerdes, de l'impossible pari à tenir, de se supporter tous chaque jour et de s'aimer en même temps, c'est bel et bien l'amour qui semble l'emporter. L'amour. L'amour au sens où, avec tous les travers dont nous sommes faits et qui prêtent très concrètement à conséquence, chaque membre de la famille fait courir par sa personnalité, son inconséquence, sa logique propre, un risque perpétuel à l'ensemble. L'amour au sens où quelque chose est malgré tout sauvé à chaque épisode. On en sort réjoui. En définitive, c'est l'amour qui va réparer les dommages causés par tel ou tel membre de la famille qui se heurte à la difficulté de bien se conduire soi-même ou au plaisir enfantin de volontairement très mal se conduire. C'est permis, c'est autorisé, même si les regrets et la volonté de bien faire sont là aussi. Et dans cette histoire, le collectif familial, lui, ne semble pas viser de son côté un quelconque idéal qui lui serait préférable.
Il touche à l'idéal dans sa démesure même, dans ses catastrophes, dans sa tentative perpétuelle de tout remettre en question et de retomber pourtant à chaque fois sur ses pattes. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. On reconnaît ses torts ou on les dissimule. Mais au final, la mère ou le père, celui-ci étant plus en retrait, mais très présent avec ses enfants, ajuste le verdict à la nécessité vitale de maintenir à tout prix la cohésion et, si l'on veut, une harmonie toujours en balance et que chacune et chacun trouve toujours sa place préservée.
L'histoire dit à chacun « tu comptes autant que nous tous » à la fin de chaque épisode. Et tu ne seras jamais mis de côté, même si par moment, la frayeur s'empare de toi d'être injustement puni, oublié, embêté, chahuté. Bien sûr, c'est une fiction. Bien sûr, à la télé, tout est enjolivé, rien n'est jamais très grave. Tout est sous le signe de la comédie, même dans les pires moments. Et l'on aimerait que dans nos vies, on parvint autant à combiner dérapage perpétuel et sens de l'accueil à jamais promis aux fautifs, à l'énergumène, à l'inclassable hors catégorie. Ici, dans cette histoire, la famille, toujours au bord de l'explosion, reste tout de même le premier et l'ultime refuge. C'en est presque une jouissance. On se sent protégé, malgré toutes les incartades, les surprises, les renversements et les jeux du sort.
Hélas, hélas, nous savons tous que nos vies réelles sont marquées de manière souvent plus brutale, beaucoup moins drôle, avec une tournure plus tragique en ce qui concerne la vie de famille. Et pour les personnes, individuellement parfois, souvent les sorties de cette matrice vers sa propre existence, l'empreinte, parfois les séquelles, les conséquences sur nos destinées personnelles, peuvent être lourdes et même profondes et nous hanter toute la vie.
Mais s'agit-il là d'un vice de forme, d'une erreur, d'un échec, d'un « c'est pas juste, c'est pas comme il faudrait, comme je me le serais imaginé, c'est pas comme pour d'autres qui en ont de la chance » ou bien d'une très banale situation partagée par la plupart, la grande majorité d'entre nous tous, et qui ne pourrait être autre que ce qu'elle est. Voici le point de bascule. La famille est-elle cet idéal à jamais promis pour notre secours, notre bien-être, notre construction, ou bien une embûche dès l'abord, dès le commencement, justement, un imprévu, une catastrophe en soi, d'où nous déboulons dans la vie. Voici ce qu'en dit de son côté Sophie Kepes dans son livre « Désappartenir, psychologie de la création littéraire » paru chez Poche Maurice Nadeau. Page 15. Maladie.
C'est un fait irréfutable que l'enfant est la chose de ses parents. Démuni, vulnérable, il est tout entier à leur merci. Mais pour moi, nous raconte Sophie Kepes, cette dépendance normale s'est transformée en prison. Tes sentiments les plus constants sont d'étouffer et, paradoxe apparent, d'être abandonné. De plus, tu es en état d'alerte permanent, car à tout bout de champ, ta sœur bondit sur toi pour te frapper. Le mot employé par ta mère, qui la laisse faire, est tabassé. Et aussi parce que ton corps subit les intrusions répétées de cette mère. Ton corps est son territoire. Elle l'arpente, le jauge, le façonne, l'envahit et le marque à sa guise. Quant à ton père, il est souvent absent. Et quand il est là, il ne remarque rien, n'écoute personne. Cet homme a traversé la vie sans se rendre compte que les autres existaient. Ses enfants pas plus que les étrangers. Cependant, tu n'as eu d'autre choix que de t'identifier à lui. À ta mère, c'était impossible. Pas tout le temps, pas pour tout le monde. Il y aurait des familles heureuses, mais pas une seule, je crois, où il n'y ait quelque chose qui, au bout du bout, cloche quand même.
Ce témoignage de Sophie Kepes nous renseigne sur ce qu'on pourrait appeler un défaut dans l'armure, dans l'assemblage. Peut-être même un défaut de langage, qui serait justement le propre du langage. Ce qu'il a de sale et de pas net. Là où nous débarquons, là où nous déboulons, dans la famille, nous arrivons d'abord dans un bain, un microcosme de langage.
Tout est langage, et m'est à rappeler la psychanalyste Françoise Dolto, par ailleurs très impliquée dans la dédramatisation des complexes de famille, et si intelligemment attentive à ce que manifestent les enfants du drame dans lequel ils sont pris malgré eux.
Détricoter la famille. Plonger puis ressortir de ce bain de langage, de ce microcosme où nous attrapons les premiers indices, les pistes, les premiers morceaux, le matériel de fabrication de notre propre langage, de notre langagement, pourrait-on dire. Je me langage, tu te langages, nous nous langageons. Faut bien un creux, un berceau, pour que la cuisine démarre, un chaudron, ce chaudron de la famille, où l'on se brûle, où ça remue, où ça boue, où parfois au contraire la soupe refroidit et le plat commence à sentir. La philosophie, un abécédaire en haute
et basse fidélité,
texte
et commentaire de texte,
Arnaud Gosselin.